parce qu'en 22 ans dans le même emploi, dans un emploi aussi instable que la radio, les communications, je pense que je suis encore là. J'arrive à m'adapter et à chaque fois, pour vrai, là, je suis retombé en bas de l'échelle parce qu'à chaque patron qui arrive, patron nouveau, amène toujours son équipe, il fait toujours son ménage. Puis là, il dit « Mais c'est qui lui? » Premièrement, on ne le connaît pas. Tu sais, avec les années, là, les stars sont arrivés à la radio. Fait que là, il me tassait, il me remettait juste de nuit ou n'importe quoi. Puis de fil en aiguille, on vient remplacer puis on dépanne. Puis à chaque fois, je montais les échelons. Puis là, il faisait « Oh mon Dieu! » Puis là, je devenais l'homme de confiance. Puis là, il se faisait congédier. Fait que là, l'autre arrivait. C'est qui lui? Ça a fait ça 5 ou 6 fois. Tu sais, à un moment donné, c'est dur, le plus dur vers la fin parce que le monde change, mais avec un peu de patience, je réussissais toujours à m'adapter, à faire ce que le patron veut. Tu sais, je garde ma couleur, mon authenticité, puis des fois, j'ai eu des contraintes assez particulières, là, surtout pour la radio. Cette contrainte-là, j'essaie de m'en servir pour devenir plus créatif.
Bienvenue au 12e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler. Pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Mon invité d'aujourd'hui n'est pas habitué d'avoir une heure pour parler au micro sans contrainte. Il s'agit de Louis-Simon Ferland, un animateur de radio qui a fait ses premières armes à Rock Détente il y a 22 ans. Il poursuit sa carrière à travers tous les changements du monde, parfois chaotique, des médias, en plus d'avoir publié des centaines de capsules et 2 livres sur la paternité et la vie de famille. Louis-Simon est père de 2 jeunes, âgés de 14 et 18 ans, et avec la même conjointe depuis qu'ils avaient 17 ans. J'ai adoré les histoires sur son enfance à Saint-Norbert, où ses parents étaient propriétaires du dépanneur, sa formation en arts et technologies des médias à Jonquière et les aléas de sa carrière dans les médias. Louis-Simon partage aussi généreusement quelques observations sur ce qui arrive aux parents quand leurs enfants grandissent. Merci de partager ce moment avec nous. On se retrouve à la toute fin. Je suis aujourd'hui avec Louis-Simon Ferland. Bonjour Louis-Simon.
Bonjour Brigitte.
C'est un plaisir de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se parle. Et d'abord, Je dois vérifier que tu es éligible pour cette conversation. Quel âge as-tu?
J'ai 45 ans.
OK, on est correct.
Dans mon corps, hein, dans ma tête, c'est toujours un peu plus vieux. Un peu plus jeune.
On ne sait jamais, peut-être, ça dépend.
Ça dépend des quarts d'heure, je te dirais. Des fois, je me sens plus vieux, des fois, je me sens plus jeune.
Wow, OK. On va voir comment ça évolue au fil de l'entrevue. Parlons d'une journée typique. De quoi ça a l'air ton quotidien, Louis-Simon?
Oh, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui passent dans une journée, mais pas tant en même temps. Alors, une journée typique de semaine pour moi, c'est de travailler une partie de ma journée à la maison, parce que je travaille dans les communications en général, je travaille à la radio, je fais aussi beaucoup de voix publicitaires. Alors des fois, c'est au gré des demandes de clients. Fait que je vais enregistrer, par exemple, des publicités le matin. En après-midi, j'ai aussi une émission que je fais de chez moi, mais qui est à la radio les après-midi de 1h à 4h. Ça, c'est une journée type de semaine. La fin de semaine, je suis en direct à la radio aussi à Montréal. Mais là, c'est une émission matinale, donc de 6h à 9h. Et à travers tout ça, ben, j'ai plein d'autres petits contrats à gauche et à droite, des enregistrements de balado, des différentes demandes, tout ce qui gravite autour de la communication. Ça, c'est le volet professionnel. Là, on est rendu juste à 8h15 le matin, hein? Je ne sais pas si... Non, mais j'ai aussi une vie familiale, donc mes enfants sont rendus plus vieux. Donc, j'ai moins à les trimballer un petit peu partout, mais quand même, ma fille a recommencé à faire beaucoup plus de sport, donc ça dépend des saisons, mais ça va inclure ça aussi en soirée. J'ai pas décortiqué tout l'horaire au complet, Brigitte, je sais pas si tu veux...
Quel âge ils ont maintenant, tes enfants?
Mes enfants, mon plus vieux a eu 18 ans il y a quelques jours. Oui, c'est un adulte. Fait que je sais pas si je dois dire que j'ai encore 2 enfants ou j'ai un adulte et un enfant. Et ma fille a 14 ans, donc en pleine adolescence. C'est un autre monde par rapport à tout ce que j'ai connu avant.
Wow!
Wow. Tu m'arrêtes quand tu veux, hein, je vais parler beaucoup à Brigitte, ça fait partie
pas de
mon métier, on dirait.
J'ai ma licence pour t'arrêter. Ça m'intrigue la question de faire l'émission de radio de la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait avant la pandémie ou c'est une innovation de la pandémie?
La pandémie a amené de grands progrès technologiques qui étaient possibles avant, mais qui, je sais pas, il y avait moins de volonté de la part des employeurs. Et quand la pandémie a commencé, ça a été beaucoup plus simple de mettre en place l'équipement pour le faire à domicile. Fait qu'on a inventé un nouveau système. Et maintenant, j'ai plus besoin de me déplacer. Après ça, j'aurais pu recommencer à me déplacer. Là, j'ai résumé vite tantôt parce que je me déplace une fois de temps en temps pour y aller dans le jour. Mais maintenant, on peut faire à peu près tout de la maison avec la même qualité, avec la même rapidité. Et dans certains cas, c'est moins plus prudent parce qu'avec les détails de circulation, parfois, juste de se déplacer et d'arriver à la bonne heure, ça peut être plus compliqué que de faire ça tout à distance, par exemple.
Complètement, c'est sûr. Puis
mais le feeling n'est pas pareil. Là, je fais une parenthèse. Là. Ouais, je me déplace dans d'autres cas parce que l'émission nécessite que je sois plus en contact avec les gens, qu'on ait plus de rapidité d'action avec des journalistes et tout ça. Alors là, j'ai pas de problème. J'adore. Je préfère de loin être à la console qu'être chez moi.
L'émission de l'après-midi, c'est probablement un peu plus relax.
Exactement.
Qu'une émission du matin, par exemple.
Voilà. Tout à fait.
As-tu des loisirs, des choses que tu fais pour le fun?
Oui, je joue au hockey, ça fait partie du sport, avec une gang de hockey extraordinaire que j'ai connue complètement par hasard il y a quoi, une bonne dizaine d'années. Toutes des gens qui ne se connaissaient pas vraiment, des gens de plein de domaines différents. Et ce qui est extraordinaire, parce que j'ai joué au hockey toute ma vie, mais cette ligue de garage, comme on dit, c'est en fin d'après-midi. Alors, mon horaire me permet cette journée-là d'y aller, puis c'est vraiment génial. Puis on est devenus des amis quand même assez proches. Toute cette gang, il y a des policiers, des pompiers, en tout cas. Bref, dans tous les domaines. Ça, c'est une partie. Je joue aussi avec ma gang de poker une fois de temps en temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Il faut que je te dise que je suis un passionné cyclique. Fait que moi, toute ma vie, ça a été ça. Quand j'ai parti quelque chose, je suis parti en feu. J'ai mis sur pied, il y a quelques années, cette petite gang de poker-là. Là aussi, c'est des amis proches. Puis ça fait peut-être 15 ans que ça dure. Il y a une époque, on était plus régulier dans nos parties. À une époque, j'ai mis sur pied aussi une ligue de flag football parce que j'ai trippé là-dessus. Quand je passe quelque chose, à un moment donné, je suis parti sur la course à pied avec quand j'ai acheté une montre qui calculait les statistiques, je suis devenu complètement fou. Fait que je me suis rendu jusqu'à un marathon. Après ça, la passion est redescendue. Puis ça a changé pour d'autres choses. Et une fois de temps en temps aussi, je joue à des jeux vidéo. J'ai un de mes bons amis où on ne joue pas ensemble parce que nos jeux ne nécessitent pas ça. C'est plus des jeux de gestion, de management, de sport. Mais on aime bien ça, jouer à ça. J'ai joué avec mes enfants aussi. Fait que je me détends de plein de façons différentes.
Des jeux de gestion du sport?
Je sais. Ça a l'air complètement fou, mon affaire.
C'est comme si c'était le propriétaire des Canadiens.
Mais dans ce cas-là, c'est du baseball. Alors, et pour te dire, on a comme recréé une dynastie qui était partie en 94 avec les Expos, les défunts Expos. Mais dans notre monde parallèle, on est rendu, je pense, en 2015 et ils existent toujours, évidemment. Ils n'ont jamais déménagé à Washington. Tu vois le genre, fait que là, tu gères tes mineurs, tes affaires comme ça. J'ai l'air complètement fou, mais ça me détend de mon quotidien.
Ah, c'est super.
J'aime les
statistiques. Baseball fiction.
Voilà.
C'est comme Moneyball, le film, c'est avec Brad Pitt, Moneyball, c'est
exactement.
Ça, mais en jeu vidéo.
Ben oui, on se prend pour des Billy Beans, comme dans le film, puis c'est exactement ça. Là. J'ai des stratégies pour gérer mes ligues mineures et pour aller chercher des bonnes recrues. Je ne sais pas pourquoi ça me détend. Là, je raconte ce jeu-là, mais j'en ai d'autres où on construit des systèmes de transport. Je dis « on », mais dans ce cas-là, je suis tout seul, là, où on gère des trains, des autobus. Je ne sais pas pourquoi ça me détend.
Puis il y a même une époque
où je conduisais des camions, je pense que ça s'appelle le Euro Truck Simulator, et ma conjointe, elle venait me voir. J'avais un volant en plus. Là, ça fait quelques années que je n'ai pas joué. Mais elle disait, tu reviens du travail, tu étais sur la route, puis là, tu viens ici, puis tu joues avec ton volant, tu conduis des camions. Je dis, pose pas de questions. Ça, je sais pas, ça me détend la tête.
Mais de toute évidence, tu n'es pas tout seul. T'sais, moi, je t'écoute avec mon chapeau de sociologue, puis je me dis, il y a assez de monde que ça intéresse pour qu'il y ait une compagnie qui crée le jeu vidéo en question. Et
tout à fait.
Le vendre à une masse critique de clients potentiels. Tu sais. Moi, je trouve ça fascinant. C'est vraiment cool.
Et, Et non seulement ça, mais on peut trouver beaucoup de gens comme nous sur le web. Hein? Donc, tu fais une recherche pour ton jeu, peu importe lequel, tu cherches un conseil et là, tu te rends compte que, oh mon Dieu, on est des milliers à jouer ce jeu-là puis on se pose les mêmes questions. Fait que c'est fascinant pour ça.
Les différents niveaux de communauté, tu sais, qui ça aussi, c'était pas vraiment possible, certainement, il y a 40 ans, disons comme ça. Les temps ont changé depuis qu'on oui. était jeune. Et justement, j'aimerais te demander de me parler de tes racines. Tu peux voir ça en parlant de ton enfance. Si tu en sais plus sur ta généalogie, on peut même s'embarquer là-dedans. D'où viens-tu?
Ma généalogie, je pense que les premiers Ferland sont arrivés à l'île d'Orléans. Je ne me souviens plus en quelle année. Le François Ferland, qui s'appelait-il le premier? Mais je vais sauter tout de suite à ma jeunesse parce qu'après ça, c'est plus simple. Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Saint-Norbert, qui est situé dans la Naudière, tout près de Joliette, en tout cas, entre Montréal et Trois-Rivières, là, si on veut faire un raccourci. Et oui, il y a un autre Ferland célèbre qui habite le village de Saint-Norbert, qui s'appelle Jean-Pierre Ferland, mais je précise tout de suite que nous n'avons aucun lien de parenté ensemble. Mais je me plais à dire souvent que ça a été mon premier employeur, parce que quand j'étais, comme mes parents avaient un dépanneur, j'y reviendrai dans cette histoire, Jean-Pierre venait souvent au dépanneur puis cherchait un employé. Donc, à 15 ans, je m'occupais de son jardin, ses chevaux, je faisais les foins chez eux. Alors, je précise toujours, on n'a pas de lien de parenté, mais j'ai travaillé pour lui. Alors, dans ce petit village, mes parents ont ouvert un dépanneur en 77, un dépanneur qu'ils ont eu pendant 35 ans. Et à wow. l'époque, oui, quand ils ont ouvert ça, dans ce genre de village-là, ce genre de commerce, c'est l'âme du village, là, parce qu'au début, c'était une épicerie. Parce que c'était assez grand pour ça, mais avec les années, tu sais, les épiceries sont devenues de plus en plus grandes. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de se renouveler. À la fin, là, c'était un station-service, dépanneur, SAQ, parce qu'en village plus éloigné, on a le droit d'avoir une licence SAQ, club vidéo à une époque, bureau de poste, quincaillerie, bref, là, j'en passe. Là. Fait que c'était devenu, tu sais, quelque chose d'assez majeur. Et ça a façonné ma vie, c'est sûr, parce que moi... J'étais le troisième enfant d'une famille de trois, mais mon frère, j'ai 9 ans de différence avec mon frère et 8 ans avec ma sœur. Dans le milieu, ma mère avait fait une fausse couche, là, fait que j'étais quand même un peu loin de tout le monde. Ce qui fait que j'avais comme les avantages d'être un enfant unique, mais sans les inconvénients. C'est que j'avais toujours un frère et une sœur qui un jour venaient du cégep et jouaient avec eux autres. Un frère et une sœur qui avaient ouvert la voie. Ma sœur avait eu une adolescence plus difficile que la mienne. Fait qu'après ça, le chemin était tracé. J'avais l'air tranquille. Et c'était très intéressant. Avec le recul, là, je l'analyse au fur et à mesure. Je ne réalisais pas tout ça quand j'étais jeune. Mais c'était bien parce que je savais toujours où étaient mes parents, mais ils ne m'achalaient jamais. Fait qu'ils étaient au dépanneur. Mes parents travaillaient 363 jours par année. Là. C'était fermé à Noël et au jour de l'an. Le reste du temps, ils étaient là, mais... Quand j'avais besoin d'eux autres, ils étaient tout le temps au dépanneur. Je savais exactement où ils étaient. Fait que dans ce petit village-là, comme j'étais lâché, très lousse, j'ai eu un grand contact avec la nature. À l'époque, on sortait le matin, puis fallait rentrer avant noirceur. Hein. Fait que c'est assez épeurant de repenser à ça avec le recul. Quand on devient parent, nous autres, puis il faut savoir en tout temps où est-ce qu'ils sont à chaque seconde. Alors que nous, nos parents, ils ouvraient la porte le matin, puis on allait découvrir la vie, on revenait le soir, puis on prenait un bain, puis l'eau était noire.
Qu'est-ce qui était peurant? Est-ce que c'est se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Ou c'est se dire, mon Dieu, mes enfants n'ont pas eu cette expérience-là?
Les deux, Brigitte. Ça fait partie des pas des regrets, là, mais on fait, ah... Moi, peut-être que je suis devenu qui je suis plus débrouillard, un peu parce qu'on n'avait pas le choix, puis c'est pas, on n'était pas brimé, on découvrait, on avait tout à créer, mais là, tu sais, c'est sûr qu'en parlant comme ça, on sonne déjà comme « dans notre temps, on n'avait pas tout ça ». Je le dis tout de suite, là, si j'avais eu les jeux vidéo qu'ils ont, j'aurais été pareil comme eux autres. Parce qu'on n'avait pas, fait qu'on inventait des jeux vidéo avec un bout de bois, là, puis on allait s'inventer des mondes. Là. J'ai toujours été créatif, même dans la nature, même avec rien. Fait que, voilà mes origines géographiques, le petit village de Saint-Norbert.
Alors, qu'est-ce qui reste dans toi aujourd'hui de cette enfance-là, dans le dépanneur ou pas loin du dépanneur? dans la campagne à Saint-Norbert, est-ce que c'est encore, ça fait encore partie de ta vie ou de la façon dont tu exprimes ton existence, si on peut dire?
Je pense, on peut jamais savoir exactement qu'est-ce qui a eu un impact, mais je pense que mon côté communicateur vient absolument de cette enfance-là, là, parce que ni mon frère ni ma sœur, pourtant, ils ont vécu une partie là, j'étais comme un extraterrestre dans ma famille, de vouloir aller en communication. Mon père est un artiste à sa manière, c'est un artiste, plus un musicien. Je pense qu'il y a un type d'humour qui ressemble au mien un peu. Mais lui, c'était sa façon peut-être d'être dans le public. Moi, j'ai été élevé, là, pour vrai, là, il mettait la coquille, le berceau sur le comptoir du dépanneur. Fait que tous les gens venaient. J'ai grandi avec du public devant moi, ce qui était bien pratique pour faire des spectacles, des affaires comme ça. J'avais tout le temps quelque chose à le montrer.
Un auditoire.
Ah ouais, c'était fou. Là, quand j'avais une idée de vendre des dessins ou n'importe quoi, là, n'importe quelle idée, là, je savais qu'après la messe, le dimanche matin, là, c'était la cohue, là, tout le monde s'en venait, fait que je pouvais faire mon spectacle ou offrir mon nouveau service. Fait que je sais pas, ça, c'est resté de moi, je pense, le côté communicateur, le côté nature, le village de Saint-Norbert, là, les grands espaces, là, moi... ça me reste, là. Il y a une fibre en dedans, je suis bien dehors, je suis bien, bon, pas tant en banlieue, là, pas tant dans le gazon, mais j'aurais jamais peur dans le bois, c'est rassurant, j'aime l'odeur, je peux être dans un champ là, vide et je vais être encore très bien de ça, puis quand je sens les odeurs d'épandage là, à l'automne, là, moi ça me dérange pas, ça me rappelle un petit quelque chose, ça fait vibrer la fibre.
Est-ce que tu habites à Montréal maintenant ou
non,
t'habites
en
toujours dans la Naudière?
Oui, ben l'Assomption, pour être précis. Fait que c'est okay. Entre Montréal et Saint-Norbert aussi. Vaguement.
Exactement.
À peu près. Mais mes parents sont restés longtemps là-bas, mais ils ont déménagé depuis le temps. Fait que j'avais quand même un lien, mais ça fait longtemps que je ne suis pas repassé dans mon petit patelin, mon petit village.
Peut-être après l'émission, tu iras faire un tour. Donc, ta communauté d'aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Dans quoi tu es ancré aujourd'hui?
Je pense qu'il y a une partie de tout ce que je connais. Je le dois, je pense, plus aux enfants qu'à mes propres démarches. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de... Soit qu'on a connu les parents quand nos enfants sont allés à l'école, ou par les sports, évidemment. Puis dans la communauté, je dirais plus que c'est ma conjointe est plus au cœur de la communauté parce qu'elle, c'est une esthéticienne et massothérapeute. Elle travaille, elle a son commerce aussi à la maison, mais ça fait déjà, je crois, 20-25 ans qu'on est à l'Assomption et c'est fou comment elle connaît tout le monde parce que grâce à ça, par le bouche à oreille, fait que j'en viens à connaître les gens aussi. Mais pour le reste, moi, je me suis toujours impliqué un peu, soit dans les sports, des fois juste avec les communications. Mes enfants n'ont jamais fait de patinage artistique, mais j'ai toujours fait les voix pour leur gala là, jusqu'avant la pandémie. Puis d'autres implications comme ça, mais je ne me présenterai pas à la mairie ni comme conseiller municipal. J'aime
on
bien mon
pas.
Petit patelin. On ne sait jamais. C'est vrai, hein? On pourrait ressortir ça dans 30 ans. Dire, ah, t'avais dit que non. Fait que c'est ma façon, c'est... Côté ami, côté sport et à pied parfois, en courant.
J'ai l'impression, corrige-moi si je suis dans le champ, que il y a la masculinité, tu sais, le hockey, le poker, les jeux vidéo, sans même faire de stéréotypes, on peut parler de statistiques. Est-ce que c'est une grande présence dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves important de façon consciente? Ou...
Non, j'avais pas remarqué ça comme ça parce que je pense que c'est un des avantages d'atteindre la quarantaine, de se connaître mieux. T'sais. Puis je sais que moi, je suis pas un... comment je dirais... Je suis un gars plus près de ses émotions que le stéréotype masculin, là. Je ne suis pas un douchebag. Je ne suis pas, le mâle alpha dans le sens où je suis plus un artiste, là, un communicateur. Je suis capable de, même dans notre couple à un certain moment donné, c'était plus moi la fille dans le sens pour parler des émotions. Je décortiquais une situation de plein de façons possibles. Fait que je n'avais pas remarqué, mais j'ai ce côté-là compétitif, le côté sport, le côté gang de gars. Ça, j'adore ça. C'est juste... peut-être, je suis plus je suis plus introverti. Ça peut paraître surprenant, vu que je travaille beaucoup en communication, mais je suis plus introverti que quelqu'un qui va vouloir s'afficher là, comme un mâle dominant.
J'aime ça.
Ouais, en fait, c'est grâce au micro que si je communique. Parce que même quand j'étais plus jeune, j'étais jamais celui qui parlait le plus fort. Je suis jamais celui qui effarait tout le monde. Mais j'avais toujours... Ça a donné comme ça pour vrai, là, soit au secondaire ou même après ça au cégep et même après dans mes premières années. J'avais toujours un ami grand gueule. Tu sais, c'est le coq, c'était lui. Puis j'étais comme son scripteur. Moi, je disais la blague pas fort et lui la répétait fort. Puis là, il obtenait tous les applaudissements. Puis ça m'a jamais dérangé. C'est ça qui est particulier. Je recherche pas le spotlight, là. Fait que ça me faisait plaisir de créer la blague. Fait que c'est quand on m'a mis un micro, en fait, devant, quand j'ai commencé les études en radio, c'était justement ça. Ça me permettait d'être écouté sans avoir besoin de crier puis d'attirer l'attention. C'est un privilège d'avoir un micro.
C'est sûr. Avoir une plateforme, avoir un espace où on peut s'exprimer puis laisser courir nos idées, qui ne sont pas toujours préformées d'ailleurs, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, des fois, ouais. Je me découvre des nouvelles idées que je ne savais pas alors que je parle dans un micro.
Oui, je travaille à la radio commerciale, donc on n'a pas vraiment le temps d'élaborer beaucoup de nos idées, c'est-à-dire qu'il faut parler le moins longtemps possible et dire le plus de choses possible dans un sens assez percutant, ce qui est une autre forme de créativité que je déteste pas du tout. Mais tu as raison, c'est vrai que plus on communique, plus ça nous amène nos propres idées. Puis des fois, ça varie. Ça fait varier notre vision de certains sujets.
Complètement. Mais parlons-en justement de comment tu t'es retrouvé devant différents micros. Qu'est-ce qui t'est arrivé entre cette enfance-là puis ta vie d'aujourd'hui? Comment on trace ton chemin?
Bien, on repart de Saint-Norbert. Ça, tout a commencé là-bas. Je parlais de la facilité à communiquer, mais à l'école primaire, peut-être qu'avec le recul, c'était un avantage, mais on était vraiment peu nombreux. On avait déjà des classes mixtes, c'est-à-dire de première, deuxième année ensemble, troisième, quatrième, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça permettait d'avoir un petit environnement où je pouvais facilement, dans ce cas-là, être plus extraverti. Peut-être que ça m'a servi parce qu'on était six garçons là, en sixième année. Fait que les autres étaient plus tranquilles. Fait que moi, j'ai pris... Et j'ai toujours aimé communiquer. Et je me rappelle encore d'un élément déclencheur que tu vas trouver ridicule, là, mais c'était une bande dessinée de Lucky Luke. Le Daily Star, que ça s'appelait. Puis là-dedans, il y avait un journaliste qui faisait des journaux écrits. Et Lucky Luke le suivait. En tout cas, je me souviens plus de l'histoire. Et j'étais fasciné par cette histoire-là. Et au dépanneur de mes parents, nous avions des journaux comme La Presse, le Journal de Montréal, Le Devoir. Et j'aimais beaucoup la texture du papier, l'odeur et tout ça. Fait qu'au primaire, je me suis dit, je vais faire un journal à l'école. On était avant les ordinateurs et les imprimantes. J'avais une dactylo, j'avais essayé. La première édition avait été dactylo. Après ça, j'ai fait... Et à un moment donné, j'ai fait ça à la main... pendant une cinquantaine de journées à l'école, à tous les jours. Puis je me suis découvert une passion. Là, j'avais tellement hâte de venir raconter ce qui s'était passé. Fait que, il y avait les nouvelles du sport. Il y avait tout là. Puis là, le lendemain, je pouvais l'accrocher là-bas. Puis là, les gens venaient voir. Puis là, je comptais les lecteurs. Fait que c'est parti de là. Et de ça, je me suis découvert une passion pour le journalisme. Et après ça, au secondaire, je tripais sur Pierre Foglia. Que je lisais tout le temps et je me suis dit, ah, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire. Et là, je regardais les possibilités d'aller en lettres ou en... C'était difficile. Et on n'avait pas Internet hein, dans ce temps-là. Fait que pour trouver un domaine, il fallait avoir le petit livre qui disait les différentes.
Chez l'orienteur, oui, le conseiller en orientation.
Exactement. Puis là, je regardais les techniques. Puis là, je suis tombé. L'avant-dernière page, je me rappelle, c'était Arts et technologie des médias. Puis là, ça donnait le descriptif. Je disais, mon Dieu, c'est là que je vais aller. Puis en bas, c'était écrit Cégep offrant le programme. D'habitude, il y avait toujours 10, 12. Et là, il y avait Jonquière. Puis là, j'étais en secondaire 4 à l'époque. Puis je disais, c'est même pas c'est où Jonquière à l'époque. Fait que là, j'étais découragé. Mais de fil en aiguille, c'est resté. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que j'avais dit ça à mes parents. Puis ma mère a dit, ben si c'est là que tu veux aller, pourquoi pas? Mon père, lui, était emballé. L'orienteur au secondaire était moins emballé. Fait que je suis allé le voir quand c'était le temps des demandes. Et lui m'avait dit « Ah oh non, mais c'est un peu compliqué d'avoir le formulaire. Fait que faudrait-tu trouver autre chose? » J'ai fait « Oh non, non, tu vas le commander. » Oui, je te jure. Parce que c'était le SRALS au lieu du SRAM. En tout cas, bref, c'était un formulaire.
Je me souviens
différent.
Que c'était contingenté. C'était assez compétitif pour rentrer à la TM.
Oui, mais donc, j'avais de la facilité à l'école.
Donc, peut-être faire partie de ses craintes.
Non, c'était vraiment... Mais les gens qui étaient orientants à l'époque, là, c'était pas leur premier choix, souvent. Fait que non, mais là, je le raconte.
C'était pas sa passion.
Non, c'est ça. Mais finalement, il a fait venir le formulaire. J'ai fait ma demande. Et oui, les domaines où il fallait être meilleur, par exemple, français, géographie, histoire, ces choses-là, j'avais une certaine facilité. Même tout mon secondaire, j'étais comme dans le groupe plus avancé. En fait, c'était drôle parce que moi et un de mes amis, nous étions les deux épais du groupe de bol. Fait qu'on était dans le groupe le plus fort, puis on se maintenait là, mais on était les deux cabotins de la classe. Là. Puis tout le monde se demandait...
Vous c'était êtes à quelle école, ça?
À la polyvalente Pierre de Lestage, à Berthier. Ils avaient créé un groupe, en fait, pour éviter que tous les gens qui étaient très bons au primaire aillent à l'académie à Joliette, qui était l'école privée. Alors, le directeur de la polyvalente était venu voir mes parents, parce qu'ils connaissaient pour leur vendre l'idée qu'on aille à Berthier à la place. On était quelques-uns à être allés, mais il avait fait un groupe spécial qui se suivait. Mais on était, c'est ça, les cabotins là-dedans. Je prends une petite gorgée d'eau. Alors, j'ai été accepté. C'est long, mon histoire?
Non, c'est merveilleux. T'es accepté à la TM.
J'ai été
accepté. Déménage à Jonquière.
Ah non, mais quand j'avais écrit ma lettre, là, j'ai fait une seule demande, puis c'était là. Je voulais absolument aller là. Toujours en tête d'être journaliste écrit. J'arrive à Jonquière, c'était extraordinaire pour commencer. On fait une année plus générale là-bas, mais j'avais toujours l'idée d'être journaliste écrit. Et je pense que l'élément déclencheur, parce que dans la première année, on essaie chacune des quatre disciplines. Maintenant, il y en a plus, là, mais je pense qu'à l'époque, il y en avait quatre, c'est-à-dire publicité, presse écrite, télévision et radio. Et on fait un petit bout dans chacune. Mais l'élément déclencheur, c'était pas tant d'essayer la radio. Je pense que c'est à notre initiation. J'imagine qu'elle n'est plus comme ça maintenant, mais on avait comme une fausse initiation la veille, puis le lendemain, on avait même reçu ça, là, qu'il fallait avoir une journée d'évaluation, puis là, il y avait des médias qui venaient voir qui avait du potentiel dans... Ça se peut pas, là, avec le recul, mais c'est le premier jour, première journée d'école, première semaine, là, puis là, il y avait des faux étudiants qui étaient là la veille, qui venaient dans nos cours, puis eux autres, ils se faisaient ramasser par les profs. Bref, c'était mental, l'initiation, mais ils nous plaçaient dans des situations impossibles. Puis à la radio, ils m'ont mis devant le micro, là, puis tu sais, ils nous font un décompte, là, puis tu fais la météo. Puis là, à la dernière seconde, ils disent « Non, non, continue, puis continue, parce qu'il faut... » Puis là, je me suis mis à improviser n'importe quoi, mais je pense que ça avait du bon sens. Fait que là, même les étudiants qui étaient supposés nous prendre à défaut ont dit « Mais tu t'es bien débrouillé, je pense, tu pourrais faire
c'est
ça. »
C'est pas pire, c'est pas pire.
C'était resté dans ma tête, puis quand est venu le temps de choisir, j'ai fait « Sais-tu quoi? Je vais essayer ça. » La radio. Même si je n'étais pas extraverti, j'ai essayé d'aller là-dedans. Et après ça, les deux autres années où on a fait la radio, il y avait des gens qui étaient destinés à être à la radio parce qu'ils étaient passionnés, parce que c'était justement « Oui, ils connaissaient toutes les affaires. » Moi, j'étais plus dans mon coin. Ça a pris du temps avant que ça déclenche. Et c'est un conseil qu'un de mes profs m'avait donné à un moment donné. C'est un conseil qu'on ne peut pas donner à tout le monde parce qu'on dit tout le temps à la radio, il faut être le plus naturel possible. Mais je disais, il me semble que quand je parle, je ne me crois pas. Il dit, si tu ne te trouves pas bon comme animateur, joue à l'animateur radio. Il ne faut pas dire ça à tout le monde, mais moi, au cégep, à cet âge-là, ça a été un déclencheur. Puis j'ai fait, OK. Fait que en fait, c'était juste de me donner confiance puis fais semblant que tu connais ça. Et j'ai fini en troisième année en étant nommé Monsieur Radio. Et Madame Radio
make
était Claudine Prévost.
Till you make it.
C'est exactement ça. Fait que de là est venue la passion.
Pardon, Madame Radio, c'était?
Claudine Prévost, que peut-être que certaines personnes connaissent, qui a fait beaucoup de télévision et qui fait encore de la radio aujourd'hui. On était une bonne couvée, c'était une bonne amie, Claudine. Fait que c'est parti de là et après ça, j'ai travaillé à la radio. Est-ce que je continue mon parcours?
Oui, vas-y, vas-y. Comment les choix s'enfilent? Puis les choix que tu n'as pas faits aussi, ça m'intrigue. Ou les petits choix qui avaient l'air petits à l'époque, mais qui ont fait boule de neige.
C'est vrai, hein? Il y en a tout plein. mais qui finissent toujours par revenir à un moment donné. Parce que c'est ça, après ça, on avait quelques choix pour travailler, mais c'était pas grand-chose là au début, comme n'importe quoi. J'avais une opportunité de travailler à Rivière-du-Loup ou à Joliette, qui était dans mon patelin, qui offrait à peu près la même chose. Fait que là, j'avais ma conjointe actuelle était ma conjointe à l'époque. Fait qu'on a fait, on va piler sur notre orgueil, on va aller vivre chez nos parents, comme 6 mois chez mes parents, 6 mois chez ses parents avant de pour se donner une petite chance, là, fait que ça nous a aidé. Puis j'ai travaillé 2 ans et demi à Joliette, et ensuite j'ai été engagé à Montréal, à Rock Détente, et je suis encore là, ça fait 22 ans, là. Fait que je suis entré en 99 à 22 ans, justement. Puis, ouais, je suis assez frivole dans la vie, fait 22 ans, je suis au même emploi, puis 28 ans avec la même conjointe. On voit que je suis un garçon étourdi.
Ouais, pas pire pour quelqu'un de frivole, je dirais. C'est pour ça. Quelqu'un qui s'est décrit, je dois dire, juste avant, quand on s'est connecté dans le studio, la première chose peut-être que tu m'as dit, c'est que t'as un peu un trouble d'attention, puis je trouve que c'est pas pire pour quelqu'un avec un trouble d'attention de garder la même job pendant 22 ans, la même conjointe pendant 28 ans.
Ouais, dans les deux cas, il faut être créatif, hein? C'est un métier de créativité, la radio, puis être conjoint aussi, c'est un métier créatif. Endurer une femme. C'est une blague, c'est une blague.
J'ai pas entendu.
Non, j'espère.
C'est mutuel, j'en suis convaincue.
Oui, oui. Ben, j'imagine qu'on va l'aborder plus tard. Ça fait partie aussi des grandes discussions de la quarantaine, ça.
J'ai l'impression que le monde des médias... je suis en même... Bon, moi, j'habite Vancouver, je te l'ai dit... quand tu as dit « je travaille à Rock Détente depuis 99 », mon impulsion, ça a quasiment été de dire « ça existe encore » parce que ça le monde des médias est en complète réinvention constamment, presque. Comment on navigue ça comme un professionnel de la radio? Comment quel impact ça a eu sur toi et sur ta carrière, tout ça?
En fait, c'est ça, Rock Détente n'existe plus comme tel, là, c'est devenu Rouge FM. En fait, j'ai eu 3 employeurs différents sans jamais changer d'emploi. Et c'était Télémédia à l'époque qui m'a engagé. Astral Média avait acheté Télémédia, on trouvait ça gros. Et ensuite, Bell Média a acheté Astral. Donc, je pense, Brigitte, et ça fait partie des choses que j'ai découvert avec le temps, qu'une de mes plus grandes qualités, je pense, c'est la capacité d'adaptation. Je ne savais pas avant, là, mais je m'en suis rendu compte dans plein de situations, et pour le couple, et pour la carrière. Je m'adapte à tout. Puis, tu sais, je fais souvent des blagues avec ça, parce qu'en 22 ans, dans le même emploi, dans un emploi aussi instable que la radio, les communications, moi, premièrement, j'ai vu partir et revenir tout le monde, là, parce que c'est des cycles, la radio, fait que tout le monde, à un moment donné, se font congédier, s'en vont ailleurs. Et 10 ans plus tard, ils reviennent par la grande porte, puis là, on les rengage parce que les patrons ne sont plus les mêmes. Alors, comme je dis, moi, j'ai eu 9 vies, mais je pense que je suis encore là, soit parce que je gagne pas cher, ou non, parce que j'arrive à m'adapter. Et à chaque fois, pour vrai, là, je suis retombé en bas de l'échelle, parce qu'à chaque patron qui arrive, patron nouveau, amène toujours son équipe, il fait toujours son ménage, puis là, il dit « mais si ». C'est qui, lui? Premièrement, on ne le connaît pas. Tu sais, avec les années, là, les stars sont arrivées à la radio. J'ai vu la transition arriver. Fait que là, il me tassait, il me remettait juste de nuit ou n'importe quoi. Puis de fil en aiguille, on vient remplacer, puis on dépanne. Puis à chaque fois, je montais les échelons. Puis là, il faisait « Oh mon Dieu! » Puis là, je devenais l'homme de confiance. Puis là, il se faisait congédier. Fait que là, l'autre arrivait. C'est qui, lui? Ça a fait ça, je ne mens pas, là, 5 ou 6 fois. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est dur, le plus dur vers la fin, parce que le monde change, mais avec un peu de patience, je réussissais toujours à m'adapter et à faire ce que le patron veut. Tu sais, je garde ma couleur, mon authenticité, puis des fois, j'ai eu des contraintes assez particulières, là, surtout pour la radio. Un patron décide que bon, cette fois-là, ce qu'il veut, c'est ça. Là, on parle le moins possible, on dit slogan, telle affaire. Fait que cette contrainte-là, j'essaie de m'en servir pour devenir plus créatif. Il faut croire que ça a marché parce que finalement, les patrons m'ont tous aimé un après l'autre. Fait que je suis pris.
T'es encore là. Le survivant.
Oui, vraiment. 9 vies.
Transition-là.
Mais
wow.
Je ne serais plus là si j'aimais plus ça. Il y a eu des moments plus difficiles, mais maintenant, je trouve toujours le moyen d'aimer ce que je fais. Parce qu'à la base, là, j'ai fait les choix pour aussi. Tu sais, en parenthèse, on m'a souvent offert d'autres postes, soit dans d'autres stations ou d'autres des émissions. Qu'est-ce que tu aimerais remplacer? Parce que moi, je fais les matins de fin de semaine là-bas, là, à Rouge, qui est un poste habituellement que personne ne veut. Moi, c'est mon royaume. J'adore ça. Plusieurs patrons m'offraient, qu'est-ce que tu veux faire? Préfères-tu faire les après-midi de fin de semaine, des plus grosses émissions? Puis je dis non, je fais un morning show, une émission du matin à Montréal et sur tout le Québec, et j'ai aucune pression parce que ce n'est pas le show le plus important pour les patrons. Mais moi, mon contact avec les gens, je suis un gars de matin, je suis un gars qui aime ça, leur partir la journée, pas lui taper ses nerfs, c'est ce que je préfère. Fait que ça fait partie des choix que j'ai faits. Et pourquoi je suis encore là, c'est parce que dans ce que je fais, je pense que ça va quand même assez bien.
Est-ce que...
Je parle beaucoup, hein? Je m'excuse.
Non, tu fais très bien ça. On dirait que tu connais ça, les micros, puis tout ça, tu te racontes bien. C'est le fun. Je suis sûr que ça n'a pas arrivé très souvent que tu as l'occasion de parler pendant plus que 3 minutes à la fois.
Tu as raison. Tu as raison. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, Brigitte. Alors, lève un drapeau.
Qu'on ouvre la
arrête-moi.
Porte, ça déborde.
C'est ça. Moi, s'il n'y a pas de chanson,
non,
tu pars. Je continue.
C'est parfait, c'est parfait. Écoute, mais je suis curieuse. Parce que je t'écoute parler, puis je me mets un peu à ta place, mais évidemment, je ne peux pas être à ta place. Je m'imagine, moi, dans cette situation-là, puis je me demande si, un, je ne me tannerais pas à un moment donné, ou deux, je suis un peu du genre anxieuse, fait que je me préparerais un kit d'urgence au cas mm-hmm. où, tu sais, une carrière de côté, mm-hmm. Le monde des médias permet ça. Est-ce que tu as déjà penser à faire une transition radicale ou...
Un vrai métier, allais-tu dire?
Non, même non, pas du tout. Moi, je suis comme toi, tu sais, moi aussi, ouais. Pierre Foglia, c'était mon idole, puis définitivement, oui. Moi, c'était éditorialiste que ça avait donné dans les choix de carrière, là, les grands questionnaires, ouais. Éditorialiste, tu sais. Mais fait que je suis avec toi là-dessus que c'est passionnant, tu sais, mais à un moment donné, je pourrais imaginer que quelqu'un justement, en arrivant dans la quarantaine, un petit peu avec cette capacité-là de voir le big picture, tu sais, de se dire, mm-hmm. ben là, je voudrais faire autre chose. Est-ce que ça t'a déjà tenté?
Mon deuxième plan, ou comme tu dis, ma sécurité, c'est que j'ai toujours fait autre chose en parallèle. Premièrement, je serais incapable de faire qu'une seule chose et toujours la même. La radio, c'est passionnant, mais pour vrai, je ne me définis pas que par ça. C'est pour ça que pendant des années, oui, j'ai fait des voix, parfois j'ai suivi des cours aussi qui m'ont stimulé plus, j'ai écrit des choses, j'ai fait des capsules vidéo. Cette mouvance-là, j'en ai besoin. Puis même, ça a été plus dur aussi pendant la pandémie où j'étais plus dans l'ombre, là, puis on faisait plus grand-chose. Puis là, tu fais, j'ai toujours la radio, ça, j'ai jamais arrêté, mais... Fait que c'était plus ça, mon plan d'urgence, c'est que j'ai noué des liens avec beaucoup de monde autour. Mais pour répondre à une question que tu n'as pas posée, comment je dirais ça? Je ne peux pas faire le choix par moi-même de partir. Je suis dans ma zone de confort. Je peux être aussi anxieux, comme tu l'as dit. J'ai aussi d'autres défauts, comme le manque de confiance. Il y a peut-être une partie de ça qui fait que je suis encore où je suis. Je suis bien dans ça. C'est-à-dire que, j'aurais pu... peut-être avoir plus, être plus célèbre, j'aurais pu avoir un plus gros salaire si j'avais passé dans une autre compagnie, mais c'est mon choix aussi, puis je suis pas quelqu'un de très prétentieux, puis je manque de confiance aussi, fait que dans certains cas, ça a pu me nuire, mais je trouve toujours le moyen d'aller chercher la dose qu'il me faut d'une autre façon. Mais oui, mettons, là, si la radio m'avait boudé, Si ça avait mal été, je pense que le seul autre métier où je me serais vu, ce serait professeur, enseignant, peu importe à quel niveau. Puis mes enfants disent des fois, je pense que tu serais bon. Bon, je parle un peu longtemps tout seul devant toi, finalement. Il y a juste une personne qui m'écoute. Dans une classe, ce sera la même chose. Il y en a une qui écouterait devant 30 autres. Mais pour vrai, puis tu sais, je ne le mets pas de côté complètement. C'est juste que le cheminement peut être un peu trop difficile, un peu trop long là, pour être un vrai prof devant les... Mais si un jour j'ai à enseigner un domaine que je connais bien, par exemple, ça me...
Pourquoi pas?
J'aimerais vraiment ça. Je pense que je serais très heureux à faire apprendre. C'est ça. J'aime apprendre, puis j'aime apprendre aux autres aussi.
On va faire un petit virage. Tu viens de mentionner tes enfants.
Oui.
Est-ce que ça allait de soi pour toi de devenir père?
Oui. Moi, c'était important. C'est moi qui ai même... On était ensemble... combien de temps? 7 ans? 8 ans? 9 ans? Ouais, presque 10 ans avant d'avoir des enfants, parce qu'on s'est connus, ma conjointe et moi, à 17 ans. Enfin, on s'est connus au secondaire, mais on était ensemble à partir de 17 ans. Et on a eu notre premier garçon à 27. Ce qui est parfait, parce que là, on avait à s'installer dans la vie, puis c'est arrivé au bon moment. Mais oui, je voulais... c'était plus moi qui en voulais, même au départ. C'était important pour moi d'être père un jour. J'ai tout le temps vu ça comme ça.
Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie?
Je le regrette tous les jours depuis ce temps-là. Non, c'est pas vrai.
On ne leur enverra pas l'épisode.
pour vrai, Brigitte, j'aurais fait... je pense que j'aurais trouvé le moyen d'écrire parce qu'étrangement, j'écrivais déjà avant d'avoir des enfants sur un site Petit Monde qui s'adressait à la famille, mais je donnais plus un point de vue de gars. Et après ça, quand ma blonde est venue enceinte, bien là, ça a switché vers l'écriture plus familiale et à propos des enfants. Mais ça a changé ma vie, pour vrai, ma vie professionnelle, parce que j'ai fait beaucoup de choses en parallèle, à part la radio, et même j'ai amené la famille à m'amener à la radio. On a fait des capsules radiophoniques, les quatre ensemble, pendant toute une saison. On a fait 80 capsules qui étaient diffusées partout au Québec, et c'était notre famille, là. T'sais, j'écrivais les textes, je les faisais enregistrer, je faisais le montage, mais c'était quand même les voix
c'est
de mes enfants.
C'est dommage fun.
Ouais, fait que ça a servi d'inspiration énormément. Les deux livres que j'ai écrits, c'est un lien avec la famille. Fait que c'est sûr que j'ai pas fait ça en calculant. M'en faire des enfants, ça va me donner des sujets. Mais écoute, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Puis c'était ça, là, j'ai pas de conseils à donner à personne. Puis je pense que si on peut résumer tout ce que j'ai écrit et j'ai fait comme livre, comme blog à l'époque, c'était juste ça. C'était comme observer notre quotidien, nos petits travers de parents, nos déceptions, nos angoisses, puis juste les mettre sur papier, puis tellement de gens se reconnaissaient là-dedans. Mais c'est parce que c'est moi, à la base, qui se posais les mêmes questions, qui était anxieux pour certaines affaires. C'est juste qu'on se regarde aller comme parents. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis, tu sais, là, je vois ta prochaine question s'en venir. Les enfants vieillissent, là, fait qu'il faut se détacher à un moment donné de cette obligation. On s'entend, là. Ça a été le centre de notre univers pendant des années et des années et des années. Là. On s'oublie pas.
Et vice-versa.
Oui, exactement.
On est aussi le centre de leur univers.
Oui, étrangement, eux autres sont prêts à s'en détacher plus vite que nous. Quand ils arrivent à l'adolescence, là, c'est plus nous autres le centre de leur univers. Mais c'est ça, il faut s'adapter aussi, non?
C'est un peu un choc.
Avoir des grands-enfants.
On y revient dans un moment. Comment tu as décidé d'écrire un livre?
Ben, parce que les deux ont une histoire un peu différente. Le premier était déjà écrit dans un sens parce que j'ai écrit mon blog, j'ai écrit sur Petit Monde à l'époque, puis après ça, c'est Youpa, qui est une chaîne télé, mais ils avaient un site internet et j'ai commencé à écrire pour eux deux billets par semaine ou trois billets par semaine. Là, on avait une entente là-dessus. Et moi qui suis un grand procrastinateur, j'ai réussi à en faire pendant des années et des années. J'ai écrit 864 billets, je pense, pour Youpa pendant des années. Fait qu'à coup de deux et trois par semaine, ça faisait beaucoup de contenu. Et j'avais une amie, j'ai quand même eu de la chance, à un moment donné, au hasard des rencontres ou des parties, j'avais une amie, une ancienne amie de cégep qui était devenue, qui travaillait pour une maison d'édition. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas ça en livre? Et quand je te dis que je manquais de confiance, moi, jamais j'aurais appelé une maison d'édition pour leur proposer parce que je ne suis pas comme ça. Mais vu que j'avais un contact, elle m'a proposé ça, on a travaillé ensemble, puis ça a été accepté. Puis après ça, ben c'était comme de... Donc, dans ce cas-là, j'avais comme un gros bloc, comme un sculpteur, et je devais juste dégraisser tout ce que j'avais écrit et en faire une... pour y donner une forme qui se tenait. Ça a donné le livre « Les parentillages », qui était un carnet insolent sur l'art d'être parent. Fait que ça partait du avant, là, quand on se préparait à être parent, jusqu'à la vie de tous les jours et tout ça. Fait que c'est très léger, c'est sous forme de petits paragraphes, là. Et je m'en fais encore quand même beaucoup parler. C'est sorti en 2018. Et le deuxième livre, bien là, c'est parce que j'avais aimé l'expérience du premier. J'avais beaucoup aimé les salons du livre, aussi rencontrer les gens, même si j'ai vendu trois livres à ce moment-là.
Oui, exactement.
J'ai pas fait ça pour vraiment pas pour faire de l'argent. C'était vraiment une carte de visite. J'étais content. Puis très, très égoïstement, c'était comme je rajoutais virgule auteur, tu sais, dans ma description, tu sais, animateur, chroniqueur, et auteur. Puis je sais pas, je l'aimais, ce terme-là.
Il y a une petite fierté qui vient d'avoir un livre imprimé. Je suis complètement d'accord.
Tout à fait. Et Brigitte,
c'est la petite coche au-dessus.
Et tu comprends que tout est dans tout, parce que qu'est-ce que je voulais faire avant de faire de la radio, c'était écrire. Et écrire quoi? Comme Foglia, des chroniques, des éditoriaux, des petits entrefilets. Tu sais, c'était ça. Fait que c'est comme revenu par la banque. Puis le deuxième livre, en suivant mes enfants qui faisaient beaucoup de sport, parce que j'ai eu deux petits sportifs, bien, au fil du temps, je me suis dit, il y a tellement de matériel drôle, frustrant, angoissant, il faut vraiment faire un livre là-dessus. Fait que j'ai reproposé ça, puis on dit oui. Fait que, mais lui, il était plus difficile parce qu'il a fallu que je l'écrive cette fois-là.
À partir de rien,
de A à Z. Puis, en parenthèse, il n'a pas sorti exactement comme je voulais. Là. Il y a eu quand même des décisions éditoriales qui ont été prises par la maison d'édition. Ils m'ont demandé de faire un format qui n'était pas tout à fait ce que je voulais faire à l'époque. Là. Ils ont voulu faire un guide de survie ou un guide pratique. C'est moins mon genre de donner des conseils. Je déteste donner des conseils. Mais je me suis adapté pour le faire. Le petit problème qu'on a eu, c'est que le lancement était prévu en avril 2020.
Aïe, aïe.
Oui. J'étais même allé en parler à la télévision parce que, un petit secret, des fois, les entrevues sont préenregistrées longtemps d'avance. Donc, deux jours avant le confinement, en mars 2020, j'étais à la télévision, à TVA, pour parler de mon livre comme s'il venait de sortir, puis blablabla. Puis finalement, deux mois plus tard, il n'est jamais sorti. Finalement, la maison d'édition, je termine là-dessus vite. Là. À un moment donné, il y a eu je pense à la fin de l'été 2020, il y a eu un petit espoir que les sports recommencent. Et là, la maison d'édition m'a dit « Ah! Ça repart! On va le lancer! »
C'est notre chance.
Là, ça a duré deux semaines, puis tout a été refermé. Fait qu'il est passé complètement dans le bas.
Mais... Je me souviens très bien. C'est... Un jour, il y aura un autre livre à écrire sur l'impact de la pandémie sur les projets créatifs, n'est-ce pas?
À peu près tout,
Puis un autre livre à écrire, que je ne pense pas que personne a écrit, c'est sur l'impact de Pierre Foglia sur le journalisme au Québec.
Peut-être.
Un projet à faire là-dedans. Tu as fait allusion tout à l'heure à la quarantaine, donc parlons-en, c'est le titre du podcast.
Ben oui!
Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça a voulu dire jusqu'à présent pour toi, la quarantaine?
Je peux dire premièrement, mettons, là, je résume que moi, ça ne m'a pas fait peur. Ça ne m'a pas dérangé. Il y a des gens peut-être qui la refusent, la quarantaine. Moi, j'ai un côté... Parce que, avec ce que je t'ai raconté tantôt sur mes passions de jeux vidéo et de jouer au poker et au hockey, j'ai un côté enfant, mais j'ai toujours eu un côté quand même assez mature. Et tu sais, quand je suis rentré à Rock Détente, là, à 22 ans, à l'époque, Rock Détente s'adressait aux personnes quand même beaucoup plus âgées. Et je te jure, ma voix, je parlais comme quelqu'un de 62 ans. Là. Je travaillais de nuit et on écoute Joe Dassin, un peu comme la caricature, là, ça ressemblait à ça. Fait que j'étais capable de me mettre dans la peau de quelqu'un de plus vieux. Fait que j'ai quand même cette maturité-là, je pense. Fait que moi, ça ne me dérangeait pas d'arriver à 40 ans parce que dans ma tête, dans certains coins de ma tête, c'était correct. Et surtout que j'avais commencé à grisonner une couple d'années avant. Fait que tu faisais, là, il faudrait que mon âge fitte avec mes cheveux.
C'est très important.
Ouais. Mais la quarantaine...
D'avoir un style uniforme.
Oui, oui. Mais la quarantaine, je l'ai vécu aussi de deux façons. Parce que j'avais pas eu l'impression d'avoir tant que ça une crise de quarantaine. Mais ma conjointe l'a eu plus dans le sens où on se connaît tellement depuis tellement longtemps. Et on n'est pas un couple, on a été sept couples différents, nous, parce qu'on était un couple de secondaire au début qui ont frenché dans un pit de sable à l'après-balle, tu sais, ça c'est notre début, mettons. Puis après ça, on a été un couple à distance parce qu'elle était restée, elle, pour faire son cours, puis moi j'étais à Jonquière. Puis après ça, on était des jeunes adultes dans le milieu du travail. Puis après ça, on était des gens plus sérieux, puis des professionnels. Puis après ça, on était des jeunes parents. Puis on s'est toujours adapté, fait que... C'est ça. Mais des fois, on n'a pas les choses au même moment dans notre vie. Puis elle, la quarantaine, l'a plus frappée, je ne dirais pas difficilement, mais tu sais, je sais pas, il y a eu un impact sur elle en premier que sur le mien. Fait que je me suis comme préparé en la regardant aller. J'ai fait, ah oui, OK, je comprends. Mais elle, tu sais, nos enfants grandissaient, puis c'est une des choses, pas se détacher, mais comment je dirais ça? Pas être tanné d'être parent non plus, mais tu sais, faire, OK, s'en rendre compte là, que les enfants ont été au cœur de notre vie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, je l'ai vu, elle, qui a été la mère la plus impliquée. Tu sais, c'était vraiment aussi le centre de son univers. Et là, ça a été plus différent. Et là, quelques années après, tu sais, je comprends, je fais, oh oui, c'est à mon tour là, de devoir et d'apprendre à me détacher, tu sais, puis d'avoir le goût même de le faire.
Le laisser aller ou le laisser voler même.
Oui. Puis de ne pas juste s'identifier à ça, quoiqu'on ne s'est jamais identifié à ça nécessairement, mais c'est sûr qu'il était juste de se poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que je veux? Fait que je pense que la quarantaine sert à ça. T'sais, au début, on se pose la question plus jeune, je suis qui? Qu'est-ce que je veux faire? Dans quoi je vais être bon? Puis tout ça. Mais là, c'est pas de la même façon, je pense qu'on se la pose. Ça vient avec les avantages de se connaître. En vieillissant, on apprend à connaître comment on fonctionne avec nos petits défauts. Hein. Puis justement, on met tout ça ensemble puis on fait, bon, qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime pas, qui suis-je, plus de cette façon-là, pour la suite. Là.
On va parler de la suite dans juste un moment, mais j'aimerais te demander si... Il y a des décisions que tu n'as pas prises, des choix que tu n'as pas faits ou peut-être même certains regrets que tu as par rapport aux 45 dernières années.
45? Ah, ben je regrette des mauvais coups que j'ai faits à Saint-Norbert quand j'étais petit. Non, c'est pas vrai. Des grands regrets. C'était ça la première question ou il y avait une sous-question?
En fait, je vais te le poser autrement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment? Est-ce que tu te disais peut-être, mettons, dans la trentaine, sciemment ou inconsciemment, tu sais, quand je vais avoir la mi-quarantaine, ma vie, ça va être ça. Puis, ça ne s'est peut-être pas passé de même, mettons.
Peut-être pas de cette façon-là, mais j'ai une grande dose de naïveté en moi que j'adore. Ça m'a bien servi à certains moments de ma vie, fait que se poser beaucoup, beaucoup de questions sur est-ce que je suis vraiment sur mon X et est-ce que je devrais... Je ne suis pas très ambitieux dans le sens où il va falloir que je fasse ça si je veux atteindre ce niveau-là. Fait que je n'ai jamais été comme ça, ce qui est peut-être un défaut aussi, mais ça me permet d'être un peu plus zen, on dirait, dans ma vie. C'est comme j'essaie de régler les petits problèmes ou trouver des petites solutions juste pour être tout le temps un peu mieux dans mon quotidien. Mais j'ai jamais eu cette volonté de complètement changer. Peut-être parce que j'ai jamais été très malheureux, là, c'est sûrement ça. Ce ne serait pas des déceptions. Mais je sais qu'en dedans de moi, j'ai un côté créatif, je pense. Et le côté... j'ai écrit deux livres à propos de la famille. T'sais. Mais si, mettons, le jeune moi me regardait, je pense que j'aurais aimé écrire de la fiction. J'aurais aimé avoir écrit des romans et tout ça. À une époque, d'ailleurs, je suis retourné à l'université pour le plaisir. J'avais ce privilège-là avec mon horaire de radio. J'avais le goût de réapprendre. Juste avant d'avoir mon premier enfant, en fait, mon garçon est né, je pense qu'il me restait une session. Puis j'ai pris un certificat en création littéraire à l'UQAM. Ça m'a permis d'assouvir ce petit côté-là parce que là, comment c'était fait, il y avait des ateliers et à chaque semaine, on partait puis il fallait écrire un texte, puis on imprimait à l'époque 30 copies, puis là, les autres le lisaient. Fait que là, j'étais certain de savoir que les autres allaient lire ce que j'ai adoré ça. Puis là, on a écrit plein d'histoires, puis bon, ça a bien sorti, mettons. J'avais du plaisir à faire, puis à la fin, c'était les autres qui avaient hâte de lire comment j'aurais amené le sujet. Fait que ça m'a fait beaucoup bien, ça m'a réconcilié avec ça. J'ai juste pas la patience ni la volonté de le faire au complet, c'est-à-dire d'écrire un roman. Ça, c'est ma petite déception de moi-même, de ne pas mener à terme ce projet-là. Peut-être que plus tard, ça pourrait arriver, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire de la fiction, des histoires, et ça a été une façon de l'assouvir, de faire ce cours-là.
Peut-être plus tard, on verra.
Peut-être plus tard, mais après ça, j'ai suivi d'autres formations aussi en écriture humoristique. Vu qu'avec mon métier, je fais partie de l'Union des artistes, des fois, ils nous offrent des formations. Fait que c'était pas grand-chose d'aller faire un cours par semaine à l'École nationale de l'humour. Puis c'était plein de formations différentes. Et je suis allé trois fois en suivre trois différentes en écriture humoristique, interprétation humoristique. Ça, c'était plus particulier parce qu'il ne nous l'avait pas dit. C'était pas écrit dans le plan de cours. Mais au premier cours, le prof nous a dit, bon, là, ça veut dire que vous allez performer dans un bar, vous allez faire un numéro d'humour de 8 minutes. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans de ça. Fait que là, tout le monde se regardait, tout le monde voulait se sauver. Là. C'était pas ça qu'on voulait faire.
Je me suis juste trompé de salle.
Ouais. Mais finalement, on l'a tous fait et j'ai capoté sur l'expérience. J'ai adoré ça. Puis je pense que ça a bien été aussi. Fait que c'est une autre façon d'écrire. Mais en même temps, là, tu vois ça, tu fais ah, ouais, je pourrais faire aussi autre chose par rapport à ça. Fait que c'est pour ça, tout part de. Tu aurais pu prendre d'autres décisions. Oui. Mais je réussis à les exploiter d'une autre façon ou juste essayer. Puis on dirait que ça me satisfait de les faire de cette façon-là. J'ai capoté sur cette fois-là, mais je n'irai pas à plein de open mic.
T'en ferais pas une carrière, forcément, mais c'était le fun.
J'aurais pas le talent, mais j'aurais. J'aime beaucoup le profil écriture humoristique dans un sens. Puis j'écoute parfois des balados là-dessus. Puis tu sais, je me reconnaîtrais plus dans un. Pas pour le style et pour la notoriété, mais dans un Marc Brunet ou un François Havard, là, tu sais, qui sont les gens dans l'ombre pour d'autres. Ça, c'est plus mon genre. Et ça revient à ce que je disais, j'avais au secondaire, au cégep. Oui, c'est ça, j'écrivais pour les autres, les grandes gueules. Auto.
J'aimerais qu'on se tourne un peu vers l'avenir, vers la deuxième moitié de la vie. Puis comme charnière, j'aimerais te poser la question, parce que tu as mentionné le hockey. Puis j'ai quelques autres amis qui jouent au hockey qui se plaignent à l'occasion que c'est plus pareil quand ils sont dans la quarantaine, qu'ils ont une expérience différente, qu'ils sentent leur corps davantage. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de ton expérience jusqu'à présent? Est-ce que tu sens le vieillissement, puisque c'est ce qui nous arrive là, à tout le monde?
Est-ce que c'est ma gang de hockey qui t'a parlé de mes performances qui ont descendu, Brigitte? Tu peux le dire.
J'ai eu 2-3 appels avant qu'on se parle.
tu ne citeras pas tes sources, hein, c'est ça?
Non.
Ben oui, c'est sûr qu'on le voit. Je suis très chanceux, je suis pas quelqu'un qui se blesse beaucoup, puis j'ai fait beaucoup de sport dans toute ma vie depuis que je suis jeune, et j'ai jamais été blessé gravement. Tu sais, jamais, même au hockey, on jouait compétitif là, quand j'étais jeune, puis tout le monde se cassait une clavicule, c'était la mode, mais pas moi. Fait que ça a tenu. Mais c'est sûr que là, c'est les performances, le cardio. J'ai tout le temps été quelqu'un de très intense dans ma ligue de hockey, avec aucun talent pour compter des buts. Là. J'ai pas de main, mais j'ai du patin. Fait que c'est sûr que c'est la première affaire qui paraît, c'est que hop, on patine moins. Puis les jeunes, parfois, qui viennent remplacer, tu fais « Oh boy, avant, je les suivais, puis maintenant, non. » C'est choquant, c'est cher. Puis juste le côté course à pied, là, j'en fais beaucoup moins. Peut-être que ça a un lien, là, pendant que tu me poses la question,
ben oui,
je réfléchis à ça. Avant, tu sais, plus tu t'entraînes, plus ton corps s'adapte, puis on finit par être meilleur, meilleur, meilleur. Et peut-être qu'à un moment donné, finalement, tu vois bien que tu t'améliores plus, fait que ça redescend à place. Puis peut-être que ça me motive moins. Ou c'est juste parce que je suis un passionné cyclique. Mais c'est sûr que je cours plus vite comme avant. Là. Puis il y a quelque chose qui donne un grand choc, là. C'est quand ton enfant commence à être plus rapide que toi. Tu sais, parce que j'ai toujours été un sprinteur. Puis le jour où mon garçon m'a dépassé là, sur un 100 mètres, là, tu fais « Ah! Wow! Je suis vieux! » Mais sinon, mais c'est sûr qu'il faut que j'apprenne à en prendre plus soin de mon corps. Quand on est très occupé à chaque jour, tu sais, j'ai beau pas avoir de problème comme tel, je pense que j'ai un poids santé puis je suis quand même assez en forme, mais des fois, je le sens. Là, tu fais « Oups! » Tu sais, le souffle n'est pas naturel. Là. Il faut
L'entretenir.
L'entretenir, exactement.
Ouais. Est-ce que ça fait partie de ce à quoi tu penses quand tu penses à vieillir davantage, puisque ça va nous arriver? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
Oui, je sais. Je sais. Et peut-être que justement, il va falloir que je trouve des sports plus en. Moins de sport individuel et plus de sport en gang pour avoir du plaisir, pour jumeler les deux. Je fais le lien avec le hockey parce que là, c'est un rendez-vous hebdomadaire, tu sais, puis je patine à fond. Bon, c'est sûr qu'on prend une bière après, là, fait que ça enlève les bienfaits de la santé, mais c'est toujours plus le fun. Tu sais, je commence à avoir plus de fun jouer au tennis avec quelqu'un que pendant des années faire de la course à pied. Il y a peut-être un lien, on s'entend, sur la pandémie et j'ai fait des capsules vidéo, j'ai écrit 2 livres. Tu sais, pendant, mettons, les 5 dernières années, j'ai fait beaucoup de travail seul. Ça a donné comme ça, même à la radio, je suis seul. Puis à un moment donné, tu fais, je suis écœuré d'être tout seul. Fait que mon sport de marathon que j'ai adoré, mais... Tu sais, je veux dire, l'entraînement pour un marathon, ça se fait beaucoup tout seul. Tu as beau courir une fois de temps en temps avec des amis, mais ils n'ont jamais le même beat ou le même horaire, ou bien l'un qui court plus vite que l'autre. Alors, quand on partait 3h30 de temps là, pour faire une sortie de 34 km, ça va, là, j'étais bien dans ma tête à ce moment-là, mais avec trop... on dirait que ça ne m'emballe plus du tout de faire ce sport-là de cette façon-là. C'est peut-être ça, c'est peut-être parce que mes performances diminuent, mais il va falloir que je trouve plus de sport d'équipe, mettons, dans lesquelles avoir du plaisir. Parce que
c'est un équilibre.
Je t'apprends rien en disant que la course à pied, c'est plate.
Mais tu peux écouter des podcasts, par exemple, pendant
que
tu cours.
C'est ce que j'ai fait tellement. Même à l'époque, il n'y avait pas l'embarras du choix, mais je me téléchargeais des épisodes. Mais c'est ça. J'ai fait un marathon. J'espérais en faire plus. Mais après ça, on dirait que
courir un marathon, c'est pas pire, mais le problème, c'est qu'il faut s'entraîner pour le maudit marathon, puis ça veut dire plusieurs fins de semaine avec des sorties, tu viens de le dire, de 30-35 km, tu sais, ça consomme beaucoup de temps, d'énergie, tu arrives chez vous, t'es raisonnablement épuisé en plus.
Ouais, mais après, on est bien. J'avais plus de difficultés avec le avant, de trouver le temps. Puis étrangement, c'était jamais la sortie de 32 qui me rebutait. Celle-là, j'avais hâte parce que je partais en expédition. C'est les deux sorties de 8 puis de 12 dans la même semaine qui, à la fin, c'était trop pesant parce qu'il n'y avait rien de nouveau. J'ai un côté gamin qui fait « Ah, je vais faire un 32 ». Fait que dans mon cas, je partais de mon coin à l'Assomption puis je courais jusque chez mes parents à Joliette. Puis pour moi, c'était comme... J'en revenais pas que je cours entre ces deux villes-là, tu sais, mettons. Oui. Mes longs trajets, je les faisais souvent en ligne droite, puis je revenais avec quelqu'un, là, parce que je trouvais ça fascinant. Mais courir des petites distances à tourner en rond dans la même ville, là, ça, c'était...
C'est comme une corvée.
Ouais, c'est ça.
Parlons du reste de l'avenir. Parlons de ce qui se présente devant toi. Pour la deuxième moitié de la vie, j'aime espérer que, statistiquement parlant, on a des pas mal bonnes chances de vivre un autre 40 ans, à peu près, si on s'est rendu au milieu de la quarantaine. Comment tu envisages l'avenir pour toi, pour les différentes dimensions de ta vie?
Mm-hmm. Donc, différentes dimensions professionnellement, pour le couple, la famille, tout ça?
Lâche-toi lousse.
Ben, professionnellement, comme je te dis, là, tu sais, j'ai pas une vision à long terme. Je suis pas quelqu'un qui est très organisé de ce côté-là. Fait que le domaine des communications, je sens que ça va toujours rester en moi. Pour ce qui est de la radio, le jour où la radio voudra plus de moi, je me battrai pas pour continuer à en faire. En tout cas, pas la radio actuelle commerciale, là, j'entends, parce que tu remarques que j'aime ça parler, malheureusement, un peu trop. Mais
non.
La créativité... communicationnel, soit avec les capsules ou tout ça. J'aime encore ces petites choses-là. Les réseaux sociaux, je me suis gardé loin de ça, mais je pourrais l'exploiter. C'est juste que dans le cadre actuel, j'aime pas ça, là, mais j'aime pas ça qu'ils mélangent ça avec notre travail parce que je trouve que c'est deux choses différentes qui vont pas tant que ça ensemble, malgré ce que les gens peuvent en penser. Mais ça peut devenir une nouvelle source de communication. Mais c'est ça. Fait que je sais que peu importe ce que je vais faire, je vais trouver une façon de créer. Tu sais, je parlais tantôt d'enseigner. Je ne l'enlève pas de ma tête. Je ne sais pas de quelle façon. Ce ne serait peut-être pas dans dans le système d'éducation comme tel, mais d'une certaine façon, j'aime trop montrer des choses ou apprendre aux autres.
Prof de cégep, ça ne te tenterait pas, il me semble. Je te verrais aller à l'ETM pour enseigner. Ça existe encore.
J'ai un ami qui vient de faire ça, il est resté à Sherbrooke et depuis cet automne, parce que ses enfants sont rendus grands, ben il est allé faire le cours à Jonquière comme prof. Je trouve ça admirable. Pas sûr que j'aurais le courage de le faire tout de suite. Et je ne sais pas si ce serait complètement technique comme ça, mais dans un cours, peut-être, ce genre-là, ça pourrait être intéressant.
En tout cas, Plus que d'enseigner au primaire, là, tu sais, rien contre l'enseignement au primaire. Il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est un métier
mais c'est ça, le
exceptionnellement
problème.
Honorable, mais...
C'est ça. J'aimerais être prof d'histoire, mais pas avoir de programme. C'est ça. Quand on était au cégep, il y avait un cours qui s'appelait Actualité internationale. Je trouvais ça génial pour les profs parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient nous enseigner. On suivait l'actualité à chaque semaine. Puis là, ils nous disaient, bon, là, ça a brassé. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, mettons, pourquoi les Juifs et les musulmans se chicanent à Jérusalem depuis... Là, on se remet à l'époque, là. Mais là, pour nous, là, c'était quelque chose que personne ne nous avait expliqué. Puis on avait un cours là-dessus. Puis fait que ça, c'est intéressant, tu sais, expliquer la vie. Finalement, tu deviens parent après ça. C'est la même chose qu'on fait, sauf que les enfants s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. C'est autre chose.
Wow. Mais donc, plusieurs... J'ai l'impression que tu t'adapterais bien à une situation... où tu serais poussé à faire autre chose, mais tu ne vas pas nécessairement chercher à faire des changements dramatiques de ton
propre... C'est une très bonne analyse, docteur. Merci. C'est exactement ça. Effectivement, je ne provoque pas tant de changements personnellement, mais je peux m'adapter aux changements. Des fois, je vais faire des petits changements pour être plus heureux dans ce que j'ai à faire. Mais oui, je pense que je pourrais avoir quand même un large éventail de métier ou en tout cas de profil professionnel où je pourrais m'adapter et finir par être heureux. Ça, c'est le volet professionnel. Le reste, ben mon couple, tu sais, on a passé, ça fait 28 ans qu'on est ensemble, fait qu'on a traversé beaucoup de choses.
Wow.
Et là on voit la suite qui s'en vient. On a encore, tu sais, nos enfants sont à la maison, 18 et 14. À 18 ans, j'étais parti. On s'entend que ça ne sera pas la même chose pour cette génération. Là, je ne sais même pas si un jour ils vont partir d'ici tellement... Un, ils sont bien. Deux, le coût de la vie n'a pas de sens.
Ouais.
Mais depuis toujours, Caroline, ma conjointe et moi, on sait qu'on va être bon, mais qu'on soit tout seul. Tu sais, il y a des couples là, qui donnent tout à leurs enfants, puis quand ils se retrouvent tout seuls, ça les ébranle. Puis tu sais, même la pandémie, à un moment donné, où des couples qui sont ensemble depuis longtemps, mais ils se sont éloignés, tout ça. C'est le piège tout le temps.
Les enfants,
mais nous,
c'est tout ce qu'ils ont en commun.
Exactement. Nous, on a toujours... communiquer beaucoup, on a toujours traversé, on a toujours partagé nos frustrations tout le long de ça, mais on sait que quand on se retrouve en vacances, juste elle et moi, il n'y a rien qui a changé. Fait que je pense, je suis peut-être naïf de ce côté-là aussi, que ça ne changera pas, tu sais, puis qu'on le jour de la retraite, on va être quand même bien, puis on va rire encore beaucoup ensemble.
J'allais puis te pour... demander, imagines-tu oui. prendre ta retraite?
Dans le métier que je fais, il n'y a pas vraiment de retraite. Tu peux continuer à faire autre chose. Je sais pas. Peut-être que c'est à ce moment-là que j'écrirai mes romans, là, finalement. J'aurai un petit peu plus de temps, puis je vais écrire pour mes petits-enfants des romans pour enfants.
Et est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent par rapport à l'avenir?
On s'inquiète toujours de nos enfants, tu sais, savoir si... parce que tu sais, tu l'as dit, on a pris un paquet de petites décisions dans notre vie, même si on ne savait pas de quel côté on s'en allait. Des fois, on a l'impression, peut-être c'est juste la naïveté, peut-être c'est juste la comparaison. J'ai l'impression des fois que j'étais plus prêt qu'eux l'étaient. Puis des fois, ça me choque. Puis en même temps, c'est une déception. Tu fais, comment ça fait? Je ne les ai pas montré ça avant. Parce que quand ils arrivent à l'adolescence, là, c'est plus le temps de leur montrer quoi que ce soit. Ils savent tout. Elle le sait. Fait que... C'est plus... Fait que là, tu dis, ah non, ça aurait dû être avant. Puis là, est-ce que quelqu'un va leur apprendre, tu sais, tout le bout qui reste, là? Comment... Fait que c'est plus ça, la crainte. Tu fais, ah, je les ai-tu bien partis? Puis pour le reste, je sais pas, qu'est-ce qui m'inquiète? C'est comme nos proches. Je pense que je m'inquiète plus de mes proches que de moi-même, souvent.
Tes parents, est-ce qu'ils sont en bonne forme?
Oui, mais ils sont vieillissants. Comme j'étais le troisième de la famille, loin des autres, je les ai vus encore en fin de semaine. Ils vont bien. Mon père va avoir 80,
wow.
80 ans en décembre. Ma mère a 77. Mais ils sont encore relativement en forme. C'est le fun de voir ça, mais on sait que le temps avance. Là. Ça donne quand même de l'espoir de voir qu'ils sont encore là, sont encore en forme. Mon père... Je pense qu'il ne fait pas de sport comme tel, mais il est encore aussi jeune d'esprit, puis il joue encore de la musique. Puis ce qui est fascinant, c'est la vision. Tu sais, je le regarde, puis je fais, lui, il ne sait pas là, qu'il est vieux, il n'a aucune idée. Parce qu'il donne des spectacles, tu sais, dans les foyers pour personnes âgées. Ça a été plus dur pendant la pandémie, parce qu'il avait complètement arrêté, puis ils ont recommencé. Puis tu sais, il chante des vieilles chansons qu'il a retrouvées je ne sais pas où. Puis là, des fois, il me dit, hey, les vieux, là, ça lui fait tellement du bien. Les petits vieux. Puis là, il va avoir 80 ans, mais lui, c'est pas lui, là. C'est pour les autres plus vieux, c'est les 90. Puis les. Fait que c'est fascinant de voir ça. Tu fais, ah, OK, ben, c'est ça. Hein?
C'est relatif.
On est toujours jeunes dans notre tête, là. Fait que ça, c'est encourageant, tu sais. Je pense pas que je me sente vieux non plus parce que j'ai cette vision-là. Fait que...
Puis, est-ce qu'il y a un héritage que tu aimerais laisser? Quelque chose que. Tu voudrais qu'on se rappelle de toi sous cet angle-là?
Oh mon Dieu. Sur mon épitaphe.
Oui, n'est-ce pas? Tant qu'à y être.
Je prends une gorgée d'eau pour réfléchir plus longtemps. Je pense pas. Ça dépend de ce qui est important pour nous, mais je ferais pas ça pour léguer quoi que ce soit comme tel. J'imagine que mes enfants un jour vont lire tout ce que j'ai écrit, là, puis ils vont peut-être voir ça d'un autre œil. C'est plus quand on a des enfants qu'on comprend un peu ce qu'ils voulaient dire nos parents. Hein. C'est, je pense, le cycle de la vie. Une phrase qui dit on trouve toujours que nos parents sont épais jusqu'à temps qu'on ait des enfants nous-mêmes, puis on se rend compte qu'on a raison. C'est le moment où les enfants commencent à nous trouver, à nous regarder bizarre.
C'est la vraie raison pour laquelle on veut devenir grands-parents.
Exact.
C'est pour que nos enfants aient cette expérience-là aussi.
C'est sûr, c'est la vraie vengeance. Mais pour le reste, tu sais, ce qui fait partie de mes valeurs, c'est d'être une bonne personne. Tu sais, mais ça, je pense qu'ils l'ont assimilé, les enfants. J'ai mis au monde des bonnes personnes, qui ont mes défauts aussi, là. Mais
ça fait partie de l'ensemble du package.
Ouais.
Merci.
Mais c'était des choses importantes aussi d'apprendre à communiquer, mettons. Fait
que, est-ce que tu penses qu'ils vont faire de la radio?
Sur lequel j'ai insisté.
Est-ce qu'ils vont faire des médias?
Je pense pas. Je leur souhaite pas la radio comme telle parce que ça a beaucoup trop changé puis c'est plus... C'est complètement autre chose. Mais je pense que, en tout cas, ma fille, c'est différent. Moi, je sais qu'elle a une bonne capacité de communication, mais elle est plus cachée. Mon garçon, c'est plus clair. Ça a été plus simple. Il y a toujours... Le plus de facilité dans ça. Et maintenant, lui, ça va être autre chose, là. Mais pour l'instant, il suit un cours en vente conseil, comme représentant, puis je le vois bien quand même là-dedans. C'est une autre forme de communication, mais il est bon avec le public one-on-one. Moins en représentation sur les médias, par exemple. Plus en vrai.
J'ai hâte d'entendre la suite. Il va y avoir la version 2 de cette série balado, ça va être la 60aine. Je m'engage pas à faire la 50aine, mais on s'en reparle dans 20 ans. Le monde va probablement changé un peu d'ici là.
On va faire ça en hologramme, j'imagine. Hein?
Probablement.
Quelque chose comme ça. Là.
C'est ça qu'on se disait, tu sais, dans les années 80. Je pense qu'on aurait pensé ça, mais finalement, de plusieurs manières, il y a des classiques qui sont encore parmi nous.
Ben oui, retour vers le futur, là, le 2, là, quand ils s'en vont dans le futur. Ah, c'est drôle, on n'a pas vécu le même 2005.
Oui, complètement. Merci infiniment, Louis-Simon, d'avoir été présent avec moi aujourd'hui, d'avoir partagé ta vie, tes décisions, puis ton avenir. Et j'ai hâte de te retrouver dans une autre conversation dans l'avenir. Merci beaucoup.
Ben merci à toi pour cette invitation. J'espère que j'ai pas trop parlé, mais ça a été un privilège, un plaisir. Merci de m'avoir offert un micro, mais sans durée limite cette fois-ci. Ça fait du bien.
Ça fait du bien de temps en temps de juste se laisser aller puis de prendre le temps de se parler pour se comprendre. Voilà. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 12e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram @laquarantaine.balado. ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.